Françoise Brenard, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour chers auditeurs. Nous avons vu dans la première émission qu'il y a dans les civilisations orales des techniques de transmission avec la composition de récitatifs. Et nous avons expliqué que le comptage est la base de toute mémorisation en culture orale. On compte par exemple avec des perles que l'on enfile dans un collier. Nous allons observer dans cette émission-ci le premier collier ou fil horizontal de ce qui formera le filet de l'Évangile selon saint Jean. Le premier collier ou fil horizontal contient 6 perles. Nous allons dire A, B, C, D, E, F. Ce sont les chapitres 1 à 3 de l'Évangile de Jean. Nous commençons avec Jean le Baptiste et nous terminons avec, à nouveau, Jean le Baptiste. Nous sommes dans la première année du ministère public de Jésus. L'apôtre Jean nous présente la vocation des tout premiers disciples ainsi que les premières manifestations de Jésus attirant à lui diverses personnes. Ce premier collier donne une indication précieuse permettant de dater le temps de Jésus. Ses opposants lui disent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours !» Le moment où Hérode prit la décision de rehausser et d'embellir le temple nous est précisément connu, par recoupement des informations fournies par les historiens Flavius, Joseph, Tacite, Suétone, Dion Cassius. Cette décision fut prise entre l'automne de l'année 20 avant Jésus-Christ et le tout début de l'an 19 avant Jésus-Christ. 46 ans après, quand il est dit « la Pâque des Juifs était proche », il s'agit de la Pâque de l'année 27 de notre ère. L'année 27 correspond à une période clé, annoncée par l'ange Gabriel au prophète Daniel, livre de Daniel chapitre 9. À partir de la dédicace, en l'an 515 avant Jésus-Christ, la dédicace du temple reconstruit par Zorobabel au retour de Babylone, l'ange compte 70 semaines, des semaines d'années, c'est-à-dire 490 ans, puis 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7, 49 ans. Donc Daniel a annoncé l'année 24, avec une fourchette de calcul d'une septaine. Il annonce aussi un Messie saint des saints, un prince Messie et un Messie massacré. Toujours livre de Daniel chapitre 9, versets 24, 25, 26. Et effectivement, tout le premier collier de l'évangile de Jean témoigne d'un climat d'attente du Messie. Nathanaël, par exemple, il attend le Messie, roi d'Israël. Et Jean-Baptiste se dit député au devant du Messie. Tel climat suscite l'inquiétude du grand prêtre, qui va envoyer une commission enquêter sur Jean-Baptiste. C'est la première perle. Ce qu'il faut ensuite comprendre, c'est qu'au Jourdain, par l'Esprit-Saint qui descend et demeure sur sa personne, Jésus est consacré saint des saints, selon la prophétie de Daniel. En la personne de Jésus est ainsi dédicacé sur la terre, le temple non fait de main d'homme. De là, l'insistance des dernières perles de ce collier opposant ce qui est sur terre à ce qui est dans les cieux. Celui qui est venu des cieux, plus haut que tout. Percevoir cela permet d'éviter l'erreur grossière d'imaginer que Jésus aurait reçu la divinité au moment du baptême par Jean-Baptiste, par une sorte d'adoption divine, mais non. Jésus est venu des cieux, il est Dieu. C'est simplement sa mission qui va commencer. Saint Luc nous dit qu'à ce moment-là, Jésus a 30 ans. Il a atteint l'âge des maîtres et peut commencer son ministère. Saint Irénée observait à juste titre, mais comment pouvait-il prêcher avant d'avoir atteint l'âge légal des maîtres? Mais Saint Jean semble vouloir nous dire que la mission profonde de Jésus n'est pas seulement celle de rabbin ou de guérisseur ou de maître, c'est celle de saint des saints, c'est-à-dire être la présence sanctifiante au milieu du peuple, à la manière du temple. On confirme cela en nous relatant deux signes. Le miracle dans les vasques réservés aux ablutions, donc le miracle de Cana. Donc les vasques réservées aux ablutions, c'est une allusion à un rituel pharisien parallèle à celui du temple. Et puis l'épisode des vendeurs chassés du temple. Alors commençons notre collier. Première perle, on va l'appeler la perle A. Les autorités juives se demandent si Jean-Baptiste est le Messie. Aussi, Jean-Baptiste doit-il répondre à une délégation de prêtres et de lévites qu'il n'est pas le Messie. Mais il est la voix qui crie dans le désert. Le désert est, depuis l'alliance au Sinaï, le haut lieu de la parole. C'est une délégation de pharisiens, c'est-à-dire de gens qui pratiquent des rites d'ablution, et on comprend qu'ils interrogent Jean-Baptiste sur le sens de son baptême. C'est alors que Jean-Baptiste annonce Jésus en ces termes, « Celui qui vient après moi, il était avant moi. » Celui dont moi je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il le désigne par des mots très forts. Voici l'agneau de Dieu, celui qui emporte le péché du monde. Vous savez, Jean-Baptiste est de famille grand sacerdotale. Il est le fils de Zacharie. Les mots qu'il utilise évoquent les plus grands rituels du temple. J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. La colombe est l'image du retour vers Dieu. La colombe part, mais elle revient. Elle représente le retour d'exil, ou le temps de la conversion. Les premiers disciples, ainsi que le notable Nicodème lui-même, étaient tous disposés à se convertir. Ensuite, Jean-Baptiste dit « Celui-là immerge dans l'esprit de sainteté. » Et il dit enfin « Et moi, j'ai vu et témoigné, celui-ci est fils de Dieu. » Souvenez-vous, chers auditeurs, dans la deuxième émission radio, nous avons expliqué que ces propos font écho avec le témoignage de Pierre sur la voie céleste. « Tu es mon fils, en toi ma volonté. » Sba en araméen. Marc chapitre 1, versets 10 à 11. L'Église définira plus tard qu'une telle union des volontés est le lieu de l'unité de la nature humaine et de la nature divine. Voilà pour la perle A. Voyons la perle B. Attentif au témoignage de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, deux disciples suivent Jésus. Ils n'ont encore vu aucun miracle, ni entendu aucun enseignement. C'est dire combien Jésus était rayonnant. André est nommé. Qui est l'autre? Probablement Jean, venu auprès de Jean-Baptiste avec son frère Jacques. Il ne mentionne pas sa présence, faute d'être majeur au moment des faits, et de ne pas pouvoir donner un témoignage. André amène à Jésus Simon, prénom qui signifie « celui qui écoute bien ». Simon est fils de Jonas, littéralement fils de la colombe. Jésus lui dit « tu seras appelé Pierre », c'est-à-dire roc. Le lendemain, Jésus appelle Philippe à le suivre, puis il dialogue avec Nathanaël, qui était sous le figuier. Nathanaël sera surnommé Bar-Toumaï, Bartholomée, fils de la jarre, que l'on pourrait dire fils de la bibliothèque, puisque les jarres servaient à conserver les manuscrits. On peut observer déjà la grandeur de Jésus. C'est lui qui appelle Philippe, et non pas, comme à l'ordinaire, les disciples qui se choisissent un maître. L'Évangile insistera sur ce point. C'est Jésus qui a fait le choix de ses disciples. Par exemple, Jean chapitre 6, verset 70 et autres passages. Même si, bien sûr, les disciples sont libres de le chercher. de venir ou de partir. Alors, au verset 42 du chapitre 1, nous avons une marque d'oralité qui indique en fait une suture dans l'histoire de la composition de Jean. Il va y avoir un développement. Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Or, en Israël, les figues avaient besoin d'être fendues pour être fécondées et avoir bon goût. Et cette entaille rappelle la circoncision. Être sous le figuier signifie être un bon Israélite, fidèle à l'Alliance. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et dit de lui, « Vraiment, voici un Israélite sans détour. » Or, comme on l'a évoqué, prophétie de Daniel, le premier nombre d'années, 70 fois 7, nous amène en l'an moins 25, moins 24. La fourchette de 70 ans recouvre globalement la vie de Joseph, Marie, Jésus, ainsi que la naissance de l'Église. Un Messie roi est attendu. Or, Joseph de Nazareth, descendant légitime de la tribu de David, n'avait pas restauré la royauté. Les mots de Nathanaël reflètent l'attente déçue. De Nazareth, trouve-t-on quelque chose qui y soit bon ? Puis, un espoir royaliste renaît avec enthousiasme. Mon rabbi, tu es lui le Fils de Dieu, tu es lui le roi d'Israël. Ici, l'expression Fils de Dieu s'entend comme pour les rois d'Israël. Jésus ne le contredit pas, mais il le fait passer à une attente plus élevée. Nathanaël verra des choses plus grandes que celles-ci. Amen, amen, je vous le dis. À partir de maintenant, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu montant et descendant auprès du Fils de l'homme. Jésus fait allusion au Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, dans la vision de Daniel au chapitre 7. Jésus fait aussi allusion à la vision de Jacob. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Après cette vision, le patriarche Jacob comprit que le lieu où il était était une maison de Dieu et la porte du ciel. Livre de la Genèse, chapitre 28, verset 17. Au minimum, Jésus veut dire ici qu'il est comme Jacob, en présence de Dieu. Il nous fera ensuite comprendre plus explicitement qu'il est, lui, maison de Dieu, saint des saints. De plus, la vision de Jacob était accompagnée d'une promesse du Seigneur. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Bien sûr, la descendance de Jésus, ce sera ses disciples, l'Église. Nous sommes maintenant à la perle C. Nous sommes maintenant au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean. C'est la première fois que l'on parle explicitement des disciples de Jésus. Et le troisième jour, ce fut un banquet à Cana, Catnée, chef-lieu de Galilée, et la mère de Jésus fut là-bas. Et lui aussi, Jésus et ses disciples, y furent invités au banquet. Et l'épisode se conclut ainsi. Tel fut le premier signe que Jésus fit à Catnée, Cana de Galilée. Et il fit connaître sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Eh bien, par ce vocable « disciple », Jésus est défini comme un rabbin, et il pourra enseigner officiellement. Le signe que Jésus accomplit consiste à changer l'eau des vasques de la purification en un vin excellent. Il est vraisemblable que des cousins étaient invités avec Jésus et sa mère. Jacques, fils d'Alphée, et Jude, que l'on retrouvera plus tard, en Jean chapitre 14. Jean aussi est présent, témoin de la scène. À ce stade, Jésus a suffisamment de disciples, au moins 6, pour être rabbin et pouvoir enseigner dans le temple. comme ce sera le cas dans la perle suivante. Donc nous voici à la perle D. De la Galilée, Jésus est monté à Jérusalem pour la fête de Pâques. Alliant le geste et la parole, il demande de ne pas faire de la maison de son père une maison de commerce. Dans les faits, il dégage l'entrée du temple en repoussant les activités commerciales plus au sud, à l'endroit réservé. Ce qui restitue à la colonnade de Salomon un accès calme et recueilli. Geste, Jésus a fait un geste prophétique. Jésus ne prend pas parti dans un jeu politicien autour du temple, mais comme Jérémie l'avait vu avant lui, Jérémie chapitre 7, Jésus sait que c'est l'iniquité qui chasse la présence divine du temple et par conséquent détruit le temple. Jésus annonce cette destruction. En chassant ainsi les changeurs de monnaie, Jésus annonce aussi les temps eschatologiques où il n'y a plus de changeurs, car tout est consacré au Seigneur. Livre de Zacharie, chapitre 14, verset 21. Nous y reviendrons plus tard. Qu'en est-il des disciples? Les disciples ne comprennent pas encore sa parole sur le temple, qui sera relevé en 3 jours. Mais ils se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Pour la plupart déjà préparés par Jean-Baptiste, les disciples perçoivent un appel à la conversion. En effet, pour être disciple, il ne suffit pas d'être le témoin des miracles. Beaucoup mirent leur foi en lui, car ils virent les signes qu'il y faisait. Or, lui, Jésus, il ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait, lui, tout homme. Perle E. Nous sommes maintenant au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus dialogue avec Nicodème. Il tient compte de la position et de la formation de Nicodème, pharisien, notable judéen. Il cherche à établir avec lui une relation qui respecte son intelligence et sans doute aussi le rythme de son adhésion. Nicodème aussi sera disciple, mais il ne se manifestera qu'après la mort de Jésus. Jésus commence par cette parole solennelle. Amen, amen, je te le dis. Si l'homme n'est pas enfanté depuis l'entête, il n'est point capable de voir le règne de Dieu. Si l'homme n'est pas enfanté, de la racine yalda, naître, enfanté, depuis l'entête, littéralement depuis la tête, roche, Jésus évoque le principe, l'entête de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1, en hébreu, Bereshit. Or, chacun sait que le dessein du Créateur a rencontré l'opposition du serpent de la Genèse et du péché d'Adam, marquant le monde, le siècle, entier par le péché. La lecture en collier nous invite à entendre ici l'écho de l'annonce de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, celui qui emporte le péché du monde, du siècle. Nicodème, et à travers lui tout Israël et toute l'humanité, est appelé à renaître, naître de l'eau et de l'esprit, afin de voir le règne de Dieu et d'y entrer. La lecture en collier fait encore ici résonner l'annonce de Jean-Baptiste. Celui-là immerge dans l'esprit de sainteté. Ce que Jésus annonce à Nicodème n'est rien d'autre que la nécessité d'un tel baptême. De là viendra que le baptême chrétien sera par la suite appelé le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Lettre à Tite, chapitre 3, verset 5. Petite réflexion. Est-ce que la perle E et la perle F sont les deux versions d'un même discours? Nous allons écouter les similitudes. Perle E. Jésus dit à Nicodème. Et la chose que nous avons vue, nous en témoignons. Et notre témoignage, vous ne l'avez pas reçu. Perle F, Jean-Baptiste dit de Jésus à un judéen, et de la chose qu'il a vue et entendue, il témoigne. Et son témoignage, nul homme ne l'accepte. Perle E, Jésus dit à Nicodème, « Si de ce qui est sur terre je vous ai parlé et vous ne croyez pas, comment si je vous parle de ce qui est dans les cieux, me croirez-vous » Perle F, Jean-Baptiste dit de Jésus à un judéen, « Celui qui est venu d'en haut est plus haut que tout, et celui qui est venu de la terre est de la terre, et c'est de la terre qu'il parle, celui qui est venu des cieux est plus haut que tout. » Perle E, Jésus dit à Nicodème, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi va être élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais que soit pour lui la vie qui est pour toujours. » Jean-Baptiste dit de Jésus à un judéen, « Le Père brûle d'amour pour le Fils, et toute chose il l'a donnée dans ses mains. Qui croit dans le Fils, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. » Lors de toutes ces similitudes, des exégètes, tels que Raymond Braun, déduisent qu'un rédacteur aurait inséré en deux endroits distincts deux versions d'un même discours de Jésus. Mais alors, pourquoi le discours de la perle F ne reprend-il ni le titre du Fils de l'homme, ni l'idée que ce dernier doit être élevé comme le serpent au désert ? Ne doit-on pas plutôt penser qu'il s'agit de deux discours distincts, introduisant des thématiques différentes qui seront expliquées dans les fils verticaux du filet de l'évangile de Jean, puisque je vous ai dit que c'était un filet, avec une lecture dans le sens ordinaire, horizontal, et une lecture avec des thèmes transversaux dans le sens vertical. L'hypothèse de Braun ne repose-t-elle pas tout simplement sur la peur de mettre sur les lèvres de Jean-Baptiste une christologie haute ? Il est venu des cieux. Mais est-il si invraisemblable que Jean-Baptiste, neveu de la Vierge Marie, ait été introduit dans le secret de famille ? Ne peut-on pas faire l'hypothèse autrement plus respectueuse que Jésus et Jean le Baptiste aient des références communes qui expliqueraient des similitudes ? Pensons à la parole du prophète Isaïe. « Ah, nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais !» Voyez, celui qui descend des cieux. Devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Les propos de Jésus et de Jean-Baptiste visent alors à secouer l'orgueil des sages. Cet orgueil qui les conduit à ne rien attendre d'une ouverture des cieux, sans se rendre compte que ce faisant, ils se coupent de la vie. Il y a là un message très important qui justifie certaines répétitions. Pour être disciple de Jésus, il faut s'attendre à ce que le ciel parle. Terminons l'observation sur la perle F. Le prophète Sophonie avait annoncé que tous les peseurs d'argent seraient retranchés à Jérusalem. Et il exultait devant la présence du Seigneur dans son temple. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Eh bien, dans un parallèle très puissant, après avoir chassé les changeurs de monnaie du temple, donc ça c'était la perle D, eh bien on entend dans cette perle F, Jean-Baptiste qui exulte de joie au sujet de Jésus, qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. L'amour qui unit le Père et le Fils est un amour de volonté. Le Père aime le Fils, de la racine Houba. Et toute chose, il l'a donnée dans ses mains. Qui croit dans le Fils, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. Maintenant, nous allons faire des vues d'ensemble de tout ce collier. Première thématique d'ensemble, Jean-Baptiste, la purification, la conversion. Donc on a vu le miracle de l'eau changée en vin à Cana dans les vasques pour la purification. Ensuite, le temple est purifié. Au centre du collier, à Cana, le rayonnement de la présence de la mère de Jésus aide à comprendre à prendre conscience des fautes qui auraient pu être considérées comme légères et dispose à une conversion complète. Il faut remplir les jarres jusqu'au bord afin d'être disposé à la joie des noces de l'agneau, les noces de l'âme avec Dieu devant lesquelles Jean-Baptiste s'incline en déclarant se réjouir à la voix de l'époux. Le thème de l'Exode est l'entrée dans le règne de Dieu. Au centre du collier, la Pâque juive commémore l'Exode. Le mot « Pâque » signifie « passage ». Le collier commence avec Jean-Baptiste à Béthanie, au gué ou passage du Jourdain. Et à la fin du collier, il y a eu un déplacement. Après ces choses-là, Jésus et ses disciples vinrent en terre de Judée. Et il y séjourna avec eux et il baptisait. C'est la perle F. De l'au-delà du Jourdain, nous sommes passés à la Judée, la terre promise. L'arrière-plan biblique est celui de la fin de l'Exode, quand Josué traversa le Jourdain pour entrer en terre promise. Josué, chapitre 3. L'histoire de Josué faisait rêver Teudas, qui annonçait qu'à son commandement les eaux s'ouvriraient pour laisser entrer le nouvel Israël. Se leva Teudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent. Actes des Apôtres, chapitre 5. Jean-Baptiste et Jésus se distancient bien sûr de ces rêveries. Ils ne cherchent pas à franchir le Jourdain à pied sec, mais ils offrent un baptême en vue d'être immergés dans l'esprit de sainteté. C'est le sens profond de l'Exode, déjà entrevu par le prophète Isaïe. Dieu a mis au milieu d'Israël son Esprit Saint. Son Esprit les menait au repos. Isaïe chapitre 63. Un autre arrière-plan biblique, connotant avec ce passage du Jourdain, est celui du prophète Élie, qui traversa lui aussi le Jourdain à pied sec, avant d'être enlevé au ciel dans un char de feu. Deuxième livre des Rois, chapitre 2. Ce qui nous amène à la perspective du départ du Christ vers le Père. Dans la perle A, Jean le Baptiste désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui emporte le péché du monde. » Dans la perle B, en appelant ses premiers disciples, Jésus se dénomme le Fils de l'homme. Une appellation qui se réfère au livre de Daniel. Daniel a vu le Fils de l'homme s'avançant sur les nuées dans le tribunal céleste. Livre de Daniel, chapitre 7. Et toutes les nations le servaient. Perle C, aux noces de Cana, avant d'opérer le miracle de l'eau changée en vin, Jésus dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il pour toi et pour moi? Mon heure n'est pas venue. » Or, ce n'est que lorsque la passion se profile que l'heure sera venue. Dès la fin de la noce, Jésus va monter à Jérusalem pour y commencer son enseignement pour la Pâque, sa première Pâque de Rabbi. Et il pense déjà à sa passion. Et le vin savoureux qu'il donne à Cana préfigure son sang versé comme signe de l'Alliance nouvelle. De plus, ce que la Bible de Jérusalem traduit par « entre toi et moi » est en araméen « pour toi et pour moi ». Qu'y a-t-il pour toi et pour moi ? Comme un destin commun. Ou qu'y a-t-il à toi et à moi ? Comme un enfant commun. Signe accompli à Cana a lieu le troisième jour, qui annonce la résurrection de Jésus, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ce n'est pas tout. Comme l'a observé le maître du repas, normalement, et jusqu'à présent, le bon vin était momentané, puis ensuite on donnait le moins bon. Ce qui est arrivé à Cana est inhabituel, car désormais, le vin que donne Jésus, le meilleur vin, est le dernier, le définitif. De plus, l'extraordinaire surabondance du vin, environ 500 litres, annonce les derniers temps, annoncés par le prophète Amos au chapitre 9 ou Joël au chapitre 4, et la restauration universelle, Isaïe chapitre 25. Tous ces prophètes annoncent les derniers temps avec l'image du vin abondant, excellent. Au-delà de la résurrection du Christ, cette perle annonce déjà la parousie, sa venue glorieuse. La perle D comporte une annonce de la résurrection, puisque Jésus répond aux Judéens et leur dit « Abattez ce temple-ci, et en 3 jours, moi, je le relève. » Les Judéens lui disaient « En 46 ans a été édifié ce temple-ci, et toi, en 3 jours, tu le relèves. » Or lui, il disait cela au sujet du temple de son corps. Et lorsqu'il se releva debout de chez les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent aux Écritures et à la parole que Jésus dit. Perle E. Nicodème, Jésus parle de son élévation, la croix. Mais il en parle en se référant au Fils de l'homme, une appellation, on l'a dit, utilisée par le prophète Daniel pour parler du jugement eschatologique. Or, nous dit Jésus, ce jugement n'est tel que pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui croient, la venue du Fils de l'homme, dès maintenant et à la fin des temps sur les nuées du ciel, est vivification. Écoutez, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi va être élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais que soit pour lui la vie qui est pour toujours. Dieu n'a pas en effet envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il vivifie le monde par ses mains. Bien, la perle F, au-delà de la perspective de la résurrection de Jésus, s'ouvre la perspective de la résurrection du disciple pour la vie éternelle ou au contraire le jugement. Qui croit dans le Fils, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. Et qui n'est pas sûr du Fils ne voit point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers auditeurs, vous voyez, tant d'échos avec la passion et la résurrection ne sont pas anodins. Ce premier collier prépare déjà tout l'évangile de Jean. L'appel des premiers disciples avait été amorcé par Jean le Baptiste, mais dans l'Église, l'appel des disciples sera amorcé par la passion et la résurrection de Jésus. En filigrane est annoncé en Jésus le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui viendra pour un jugement du monde. En effet, tous n'accepteront pas le salut. Il faudra un jugement pour que soit définitivement enlevé le péché du monde. Et qu'advienne alors le règne de Dieu sur la terre, un règne joyeux comme un banquet de noces, accompagné de la chaleur d'un vin excellent et surabondant, les noces de Cana, avant d'entrer dans la vie qui est pour toujours, qui était le refrain de la perle E et de la perle F. Nous allons voir encore les résonances sur le nom de Pierre. Donc nous reprenons encore le collier. À Simon, fils de Yona, dans la perle B, littéralement fils de la colombe, Jésus dit « Tu seras appelé Pierre ». Or l'ensemble du collier offre des raisonnements, des résonances sur ce verset. La colombe rappelle le signe qui désigna le Messie à Jean-Baptiste. J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. La pierre, pour les nomades, évoque la pierre placée sur le piquet qui tient la tente. Pour consolider tout l'ensemble. Ah oui, nous ne sommes plus des nomades et nous avons oublié ces images quotidiennes quand on est des campeurs, qu'on dort sous la tente. De plus, pour les Hébreux, la pierre évoque la loi gravée sur les pierres, les tables de pierre, ainsi que l'autel. On offre un sacrifice sur quelque chose de solide en pierre. La pierre évoque le rocher de fondation. L'offrande est présentée pour être touchée et sanctifiée par la divinité. Pierre désigne ainsi le temple que Jésus promet de relever. Les tables de la loi étaient en pierre, Exode chapitre 34. Ces tables étaient gardées dans l'Arche d'Alliance. Mais au temps du Christ, c'est une pierre qui remplaçait l'Arche d'Alliance dans le temple. puisque l'Arche d'Alliance, depuis l'exil, eh bien, n'y était plus. L'identité de Pierre ne remplace pas celle de Simon, fils de Yona, le bon entendeur dans la mouvance de l'Esprit-Saint. Elle en est plutôt l'accomplissement. L'Esprit-Saint sanctifie par la loi reçue du Père et par la relation au Dieu vivant dans le Temple. Eh bien, chers auditeurs, je pense que vous n'avez encore jamais médité l'évangile de Jean comme ça. Voyez comme c'est riche et cohérent. Voyez comment tous ces épisodes que j'ai appelés des perles s'enfilent comme dans un collier et que l'on peut les méditer ensemble. Elles forment vraiment une structure faite pour la méditation. On ne médite pas l'évangile dans tous les sens. Jean a fait une composition qui est très réfléchie, très ordonnée et aussi très facile à retenir. Je suis presque sûre que vous êtes maintenant capable de retenir les épisodes. Le premier, Jean-Baptiste au Jourdain. Le second, l'appel des premiers disciples. Le troisième, les noces de Cana. Le quatrième, Jésus au temple. Le cinquième, eh bien, nous avons Jésus avec Nicodème, et le dernier, de nouveau, Jean-Baptiste. Je suis sûre que vous les connaissez presque par cœur. Je suis sûre que vous pouvez faire les échos de mémoire. On commence au Jourdain avec Jean-Baptiste. Ensuite, les premiers disciples qui étaient déjà préparés pour certains. Puis Nathanaël, les noces de Cana, la purification du temple. Nicodème et de nouveau Jean-Baptiste. Voilà. Eh bien, Jérôme, merci. À dans 15 jours.
Merci beaucoup, Françoise. À dans 15 jours.